Excellent réveil à tous. Les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Dans la rue et à l'Assemblée, la réforme des retraites est combattue sur tous les fronts. Les avocats, encore en grève hier, seront reçus aujourd'hui à Matignon. Alors que l'Assemblée nationale, l'opposition France Insoumise en tête, pilonne le texte du gouvernement. 22 000 amendements déposés, la menace du 49-3 ressurgit. Décryptage dans un instant.
Et puis dans ce journal encore, nous irons dans l'Iowa, premier État américain à se prononcer dans la primaire démocrate. Bernie Sanders, favori. Avant le vote, l'ancien maire Pete Buttigieg pourrait créer la surprise, les résultats se font attendre.
À la une encore, la bataille de l'après-Brexit qui a commencé hier entre Londres et Bruxelles. Boris Johnson refuse de s'aligner sur les règles de l'UE comme le demandent les 27 pour conclure un accord de libre-échange. L'Europe sans le Royaume-Uni n'a plus le même centre de gravité. C'est vers l'Est que désormais les regards se tournent. La Pologne, un allié précieux, Emmanuel Macron, est à Varsovie depuis hier pour parler affaires et défense.
Mais oui, défense justement. On évoquera cela dans la question du jour, Catherine, visite d'Emmanuel Macron en Pologne. Pourquoi relancer la défense européenne? Je poserai la question à Pierre Haroche. Il est chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire.
Dans la rue, hier à Matignon, aujourd'hui, le syndicat des avocats de France et le Conseil national des barreaux seront reçus aujourd'hui par Édouard Philippe pour parler de l'épineuse réforme des retraites. Olivier Couzy sera du rendez-vous. Il est bâtonnier de Paris et vice-président du Conseil national des barreaux. Olivier Couzy craint que la hausse des cotisations dans le futur système universel des retraites ne vienne mettre en péril l'activité de toute la profession, risque de désert judiciaire. L'inquiétude d'Olivier Couzy au micro de Pauline Renoir hier dans la manifestation à Paris.
Nous attendons enfin des propositions concrètes pour aider les confrères à supporter la hausse des charges que déclenche cette réforme. Vous savez, quand un avocat vous facture 100 euros, il paye déjà 70 euros de charges. Donc si on lui rajoute 10 points de charge en plus, il ne pourra plus vivre. Ce qu'on souhaiterait, c'est garder une autonomie de gestion du régime de retraite et avoir une autonomie sur les cotisations, mais aussi sur les pensions. Et on a l'impression que le gouvernement a perdu la main au profit de technocrates qui font des calculs sur des tableaux Excel. Et la justice, ce n'est pas des tableaux Excel, c'est de l'humanité.
Olivier Couzy, bâtonnier de Paris et vice-président du Conseil national des barreaux, qui exposera donc aujourd'hui les motifs de sa colère à Matignon. Et sur un autre front, la bataille autour de la réforme des retraites se poursuit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La commission spéciale, qui croule sous près de 22 000 amendements, n'a pu en examiner que 245 hier. Elle risque de ne pas achever ses travaux avant le 17 février, date prévue d'arrivée des projets de loi ordinaires et organiques dans l'hémicycle. Face à l'obstruction parlementaire assumée par la France insoumise et ses 9 000 amendements déposés, l'hypothèse d'un passage en force du gouvernement par un recours à l'article 49.3 de la Constitution refait surface, Rosalie Lafarge.
Si le spectre du 49-3 ressurgit, c'est d'abord un peu à cause de Patrick Mignola.
Moi, au fond, j'ai dit un gros mot pour éviter un petit débat.
Face à l'obstruction parlementaire assumée par la France insoumise, le président du groupe Modem à l'Assemblée a été le premier à suggérer à l'exécutif de brandir la menace de l'arme constitutionnelle qu'il espère pourtant éviter.
Moi, je le redoute plus que je ne le prône. Mais il faut faire savoir aux Français le piège qui nous est tendu par les amis de Jean-Luc Mélenchon. C'est un piège qui, empêchant le débat, bâillonnant le débat, pourrait conduire le gouvernement à faire ça. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le Premier ministre il y a quelques heures sur le sujet. Il est farouchement opposé à l'utilisation du 49-3 sur un texte comme celui-là. Il ne faut pas passer en force, il faut débattre.
Et si l'opposition ne nous laisse pas débattre, le Premier ministre n'aura pas d'autre choix, semble glisser Patrick Mignola. Mais le politologue et président de la société de conseil CAP, Stéphane Rosès, voit lui une alternative.
L'autre solution, c'est d'étendre le temps du débat. Donc là, la balle est à nouveau dans le camp du couple exécutif pour donner quand même le sentiment au pays qu'il ne passe pas complètement au forceps. Le gouvernement a choisi un débat parlementaire très restreint dans le temps, mais la symbolique d'utiliser en outre le 49-3 serait véritablement montrer une forme de dédain à l'égard du débat démocratique.
À en croire la majorité par la voix de plusieurs députés et ministres, le passage par le 49-3 n'est pas du tout au programme de l'exécutif, en tout cas pas aujourd'hui, alors que le débat ne fait que commencer à l'Assemblée.
Et tandis que les parlementaires se déchirent sur la réforme des retraites, des poubelles débordent sur les trottoirs à Paris et Marseille, conséquence de la grève des éboueurs et des agents de traitement des déchets opposés à cette réforme. Depuis une dizaine de jours, les trois incinérateurs qui gèrent les déchets de 6 millions de franciliens sont à l'arrêt. 3 000 tonnes de déchets par ailleurs cumulées à Marseille. À la colère contre la réforme des retraites, il ajoute sa colère contre une décision financière qu'il juge inhumaine. Le SNUIPPFSU, premier syndicat du primaire, a demandé hier au ministre de l'Éducation nationale de renoncer à la retenue sur salaire prélevée aux enseignants qui s'étaient mis en grève le jour des obsèques de leur collègue Christine Renon. Christine Renon, c'est directrice d'école qui s'est suicidée à la rentrée dans son école à Pantin. Sanofi, mise en examen dans le scandale de la Dépakine. Après plus de 3 années d'enquête, les juges chargés donc de l'enquête sur la commercialisation de cet antiépileptique ont mis le groupe pharmaceutique en examen pour tromperie aggravée et blessures involontaires. La Dépakine avait été prescrite à des femmes enceintes alors que ses dangers pour le fœtus étaient connus. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a exigé hier la démission du président de la Fédération des Sports de Glace, Didier Gayagué. Un acte rarissime pour répondre aux accusations de violences sexuelles qui secouent le patinage artistique français depuis près d'une semaine maintenant. Roxana Maracineanu dénonce des dysfonctionnements graves et des manquements quasi institutionnalisés.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Direction les États-Unis à présent, où les résultats pour le premier test de la primaire démocrate se font attendre.
Dans l'Iowa précisément, premier état à se prononcer pour désigner celle ou celui qui affrontera Donald Trump pour la présidentielle du 3 novembre prochain. À cette heure-ci donc, pas encore de résultats. Le Parti démocrate continue de faire remonter les résultats des 1700 caucus organisés dans cet état du Midwest, état rural à majorité blanche. Alors cette primaire démocrate, ce système des caucus, un système de vote à la fois folklorique et étonnant. Grégory Phillips a assisté au vote dans un collège de la banlieue nord de Des Moines, dans l'Iowa.
C'est le terrain de basket qui a été réquisitionné. Dans ce gymnase, environ 500 militants démocrates. Et la chef du bureau de vote évoque un scrutin capital qui permettra, dit-elle, de battre Donald Trump le 3 novembre. Puis, au signal, les électeurs se lèvent dans un joyeux brouhaha et rejoignent l'espace qui a été assigné aux candidats à chaque coin de la salle de sport. Ainsi, on voit à l'œil nu que les supporters de Pete Buttigieg, 38 ans, ex-maire de South Bend, sont les plus nombreux, à la grande joie de Suzanne.
Je trouve qu'il est le meilleur pour notre prochain président. Il est jeune, il a la pêche.
Puis, entre le premier et le deuxième tour, les capitaines d'équipe vont de groupe en groupe pour convaincre les indécis de les rejoindre. Et après 15 minutes de négociation, on procède à un nouveau décompte. Joe Biden se qualifie difficilement pour le deuxième tour. Il a, dans ce bureau, bien failli ne pas avoir les 15% de voix nécessaires. Bernie Sanders est troisième, Elizabeth Warren deuxième et Buttigieg confirme sa première place. Il a l'énergie de la jeunesse, reconnaît Marie, qui elle soutient l'ex-vice-président Biden. Mais je ne suis pas certaine que Buttigieg ait l'expérience nécessaire pour aller jusqu'au bout. Moi, j'aime Biden. La salle se vide sans attendre la proclamation des résultats. Il y avait du monde, mais moins qu'en 2008 pour la victoire d'Obama, croit se souvenir la patronne du bureau de vote.
Grégory Phillips à Des Moines dans l'Iowa pour France Culture. Toujours aux États-Unis, mais à Washington cette fois. Le président Donald Trump va prononcer ce soir à 21h heure de Washington le discours sur l'état de l'Union. Traditionnel discours de politique générale du président américain devant le Congrès. Un Donald Trump revigoré par son acquittement à venir dans son procès en destitution. La bataille de l'après-Brexit a commencé hier entre Londres et Bruxelles. Boris Johnson a refusé de s'aligner sur les règles de l'UE, comme le demandent les 27, pour conclure un accord de libre-échange et pour redessiner les contours de cette Union européenne et les équilibres, les alliances. Emmanuel Macron est depuis hier en Pologne, une visite qu'il présente lui-même comme un tournant dans les relations franco-polonaises après 2 ans d'antagonisme sur le climat, l'état de droit et la politique migratoire. Les convergences sont désormais soulignées, les divergences atténué. Virage à 180 degrés justifié par des considérations économiques et politiques et par la nouvelle donne post-Brexit. Louise Baudet.
Premier constat, l'Europe sans le Royaume-Uni n'a plus le même centre de gravité. C'est vers l'Est que désormais les regards se tournent et de ce côté, la Pologne est un allié potentiel qu'il ne faut surtout pas négliger. Il rassemble avec l'Allemagne et la France 47% des citoyens européens, poids démographique mais aussi politique. Sur les grands sujets, rien ne se fera sans la Pologne, répète en boucle l'Élysée. Autre avantage de la réconciliation franco-polonaise, elle est économiquement porteuse. Pas de gros contrats signés à Varsovie, c'est vrai, mais plusieurs grands patrons patrons français sont du voyage. Parmi les secteurs prometteurs, la cybersécurité, la défense, le ferroviaire, voire le nucléaire, qu'Emmanuel Macron espère développer en Pologne sur la longue route de la neutralité carbone. Opportunité économique et opportunisme politique soigneusement mis en scène avant le scrutin européen, l'opposition entre progressistes et populistes a perdu de son utilité. Alors autant changer de pied, même s'il faut pour cela déléguer les sujets qui fâchent. Les attaques polonaises contre l'état de droit sont des sujets de compétence européenne, précise désormais le président français.
Et dans l'Europe post-Brexit, inquiétude du secteur économique. Le Royaume-Uni est le quatrième marché automobile en Europe. Il emploie 640 000 personnes dans le pays, Hakim Kasmi.
Les principales sources d'inquiétude pour les constructeurs, ce sont les taxes et les contrôles douaniers qui vont augmenter les délais de livraison des pièces détachées et des véhicules, ce qui risque d'augmenter les prix et de réduire du coup leur compétitivité. D'autant que 54% des voitures produites en Grande-Bretagne sont exportées dans l'Union européenne. François Roudier, le porte-parole du CCFA, le comité des constructeurs français de l'automobile.
Vous avez une recherche chez tous les constructeurs pour se dire mais qu'est-ce qui va se passer si on est complètement grevé par des taxes à l'entrée, à la sortie, des taxes sur nos équipements que nous achetons. On va pas mettre la voiture en Angleterre, on va la mettre ailleurs.
Londres et Bruxelles ont donc tout intérêt à trouver un compromis, car les constructeurs étrangers comme Toyota et Nissan sont déjà de gros employeurs qui sont implantés dans des régions où les taux de chômage sont déjà très importants. Flavien Levy, spécialiste auto à l'Observatoire CTLM.
Tout l'enjeu, si vous voulez, ce sera de voir quels seront ces accords. Évidemment, le Royaume-Uni a intérêt à faire en sorte que cet accord soit le mieux disant possible, justement pour ne pas freiner les investissements au Royaume-Uni. Il faut rappeler que il n'y a plus de constructeurs britanniques en tant que tels hein, dans l'industrie automobile, mais il y a encore des sites de production importants au Royaume-Uni. Et évidemment, les constructeurs regarderont avec beaucoup d'attention la teneur de ces accords, parce que de ces accords-là dépendront les investissements futurs qui seront faits ou pas au Royaume-Uni.
Les constructeurs ont donc jusqu'au 31 décembre pour trouver un compromis. Le temps presse, car les investissements dans le secteur automobile en Grande-Bretagne ont déjà chuté de 60% depuis 7 ans.
Brexit, le divorce signé, faut-il partir ou rester? Parole d'expatrié, c'est un dossier à retrouver sur franceculture.fr. À suivre dans le journal de 7h30, le bilan de l'épidémie du coronavirus en Chine. Il est monté à 425 morts. De nouvelles mesures de confinement ont été prises par les autorités à Pékin, des autorités qui craignent de voir revenir des millions de personnes parties pour le nouvel an lunaire à Wuhan, l'épicentre de la maladie. On y revient donc dans le journal de 7h30. Le temps de ce mardi 4 février marqué par une vigilance orange pour crues dans le nord, la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Moselle et le Bas-Rhin. Une alerte orange pour vent violent cette fois en cours en Corse. Les températures sont en nette baisse. Au meilleur de la journée, il fera 6 degrés à Strasbourg, 8 à Limoges, 9 degrés à Paris, 11 à Rennes et à Poitiers, 14 degrés à Marseille et Bayonne.